Vous écoutez RTL.
Bonne soirée, 18h. RTL Soir, Christophe Ponzio.
Bonsoir, bonsoir à tous. Du rouge et du noir, la route a été encore difficile aujourd'hui pour ce nouveau week-end de passage de témoins entre vacanciers. Plus de 710 km de bouchons cumulés et au bout, le début ou la fin des vacances. Il reste encore du monde ce soir. Point complet et reportage dès le début de ce journal. Les frappes américaines en Irak prendront du temps, c'est ce qu'annonce le président américain Barack Obama. Alors que l'avancée des djihadistes de l'État islamique se poursuit, aucun calendrier n'est avancé. Dossier spécial à suivre. Également dans ce journal, le nouveau coup de massue pour les abattoirs de Port-Gade en Bretagne. Le site de Josselin dans le Morbihan devrait ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. 1000 salariés sont sur la trappe. Ils ont manifesté cet après-midi à Lorient. Dans ce journal, nous irons également à Gaza où la reconstruction de la population est en marche alors que les bombardements se poursuivent. Nous parlerons également en football avec la suite de la première journée de Ligue 1 de football avec cette belle rencontre au programme. Et puis nous parlerons aussi de ce cri d'alerte des sauveteurs en mer qui manque de budget, vous l'entendrez. Le Quintet Plus à Clairefontaine, il fallait jouer le 15, le 4, le 6, le 8 et le 2. La météo, Valérie Quintin, il ne manquait plus que ça. Ambiance tempête demain dans le Nord-Ouest.
Oui, après ça, c'est la neige. Moi, j'ai plus rien d'autre. Alors, c'est vrai que ça va commencer dès demain matin avec de grosses pluies orageuses et beaucoup de vent sur les régions du Nord-Ouest. Ça va des Pays de Loire jusqu'à la Normandie et jusqu'aux côtes de la Manche. Ça va vraiment être assez féroce et cette dégradation va avancer. On la retrouvera à la mi-journée entre la Gironde en allant vers les Ardennes, donc ça passera par le centre et par l'Île-de-France. À l'avant de tout cela, un ciel assez bien dégagé, des orages tout de même l'après-midi des Pyrénées jusqu'au nord-est, et puis à l'arrière de cette dégradation, puisqu'elle va heureusement passer assez vite grâce au vent, Bretagne et Normandie récupéreront un petit peu de soleil aussi l'après-midi. Au final, c'est vraiment près de la Méditerranée qu'il fera encore beau demain. Température sans changement malgré tout, comprise entre 20 et 33 degrés de Brest à Ajaccio, comptez 24 à Paris, Orléans et Charleville-Mézières.
Merci beaucoup Valérie Quintin.
RTL Soir,
Christophe Ponzio.
De la patience encore et toujours pour ce nouveau week-end de chasse et croisée sur la route, le deuxième du mois d'août. Pas de record aujourd'hui, mais tout de même, un pic à plus de 710 km de bouchons cumulés. Et Charles Dodon, les difficultés ne sont pas terminées.
Oui, on en a certes moins, mais pour beaucoup, la plage ou la maison pour ceux qui rentrent, ça n'est pas encore pour tout de suite, avec malheureusement des accidents qui ont compliqué les choses. C'est le cas toujours entre Limoges et Brive sur la 20 et près de Lançon de Provence. En Vallée du Rhône, vous êtes encore nombreux en cette fin d'après-midi. Entre le sud de Lyon et Orange, vous perdrez une quarantaine de minutes. Près de la Méditerranée, on est loin du trafic parfaitement fluide sur la 9 vers l'Espagne avec toujours des coups de frein à Montpellier, à Béziers ou Perpignan. Enfin à l'ouest, ça reste encore bien chargé dans les deux sens entre Poitiers et Bordeaux sur la 10. Même chose en région centre au nord de Clermont-Ferrand.
Merci Charles. Un chassé-croisé aussi sur les plages où les transats viennent de changer de propriétaire comme à Nice sur la Côte d'Azur. Julien Fautra.
Ah oui, ils sont faciles à reconnaître les nouveaux touristes. Peu de couleurs sur le visage et un mot d'ordre avant de s'allonger sur la plage.
Enfin, je vais me reposer.
Catherine, Rémi et leurs enfants viennent de Champagne-Ardenne, à peine poser les valises et ce petit plaisir pervers, appeler les copains, rester sous la grisaille.
Donc ils nous disent qu'il pleut, qu'il y a orage et qu'il fait gris. Et nous, ça nous fait un peu marrer puisqu'on en profite. Ils nous ont tous dit, surtout bronzer du visage et des mains, mais le reste, c'est pas la peine parce qu'après, vous allez remettre les pulls.
Et ensuite, on va aller prendre le petit train comme de vrais touristes pour visiter la ville.
Catherine et Rémi qui ont croisé d'autres touristes, ceux-là sur le chemin du retour. De jolies vacances, mais un sourire un peu plus crispé. Irène, Marcel et leurs deux filles dormiront chez eux ce soir à Bruxelles.
Excellente. Les enfants ont beaucoup joué. On est déjà venus plusieurs fois. Et à chaque fois, on a envie de revenir.
On a été à la Croix-Branche, on a fait du trampoline, on a fait de la cuisine et tout ça.
Les deux petites filles qui savourent leur dernière glace niçoise, celle dont on garde le goût toute l'année avant de revenir.
Reportage de Julien Fautra et sa serviette RTL à Nice. L'inquiétude est grande en ce moment chez les 1000 salariés des abattoirs de Port-Gade de Josselin dans le Morbihan. Confrontés à des problèmes de trésorerie, la direction vient de leur annoncer son intention d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Une menace pour leur emploi alors que l'entreprise avait déjà dû fermer un second abattoir dans le Finistère au début de l'année. Ils étaient donc près de 200 cet après-midi à manifester dans le centre-ville de Lorient en marge du festival interceltique. Johan Payou, vous avez suivi le cortège pour RTL avec des salariés en colère mais qui ne veulent pas baisser les bras.
Oui, à l'image de Daniel, salarié aux abattoirs GAD à Josselin depuis près de 3 ans, qui dénonce la gestion de son entreprise.
Je pense que c'est une mauvaise gestion. Parce que c'est bien simple, il y a un an, la boîte a failli fermer. Donc, ils ont eu un an pour la remettre en marche. On a appris, il y a 2-3 jours, que c'était encore pire qu'il y a un an. Qu'est-ce qu'ils ont fait en entre-temps?
À l'époque, le site de Josselin avait été préservé au prix de la fermeture des abattoirs de Lampol-Guimiliau dans le Finistère, avec déjà près de 900 licenciements. Cette fois, ce sont 1000 emplois qui sont en jeu et bien plus, selon Daniel.
Si Josselin ferme, toutes les boîtes de transport qui travaillent avec nous, plus les artisans, les commerçants de Josselin, tout va se casser la figure. C'est le secteur qui a énormément, qui va se prendre une claque.
Aujourd'hui, la direction de GAD justifie sa décision, selon la CFDT, par des problèmes de trésorerie, dus notamment aux difficultés de la filière porcine et à l'embargo russe sur les importations de porc. Patrick Guidel, délégué CFDT, en appelle à tous les acteurs concernés et en premier lieu les pouvoirs publics.
On veut faire pression à la limite sur les pouvoirs publics qui prennent bien conscience que les jours sont un peu comptés, mais aussi sur le possible repreneur qui s'est positionné il y a de ça quelques semaines, qui a dit clairement qu'il était très intéressé.
Le repreneur en question, c'est le groupe Intermarché, qui pour l'heure ne s'est pas manifesté. Les salariés craignent une liquidation pure et simple fin août, début septembre.
Yoann Payou à Lorient dans le Morbihan pour RTL. L'actualité internationale dominée par la situation en Irak et l'avancée des djihadistes de l'État islamique. Elle entraîne la fuite inexorable des minorités chrétiennes et yazidis. Le président américain Barack Obama s'est exprimé cet après-midi alors qu'il est en vacances et n'a avancé aucun calendrier sur la durée des frappes aériennes des États-Unis, Nicolas Tarka.
Ah oui, Barack Obama a été clair, les frappes se poursuivront tant qu'existera la menace de l'État islamique, autrement dit pendant des mois. Après 2 jours d'intervention, le président américain a fait un premier bilan de cette opération.
Jusqu'à maintenant, ces frappes ont permis de détruire des armes et du matériel que les terroristes de l'État islamique auraient pu utiliser contre Erbil. Nos efforts humanitaires continuent d'aider les hommes, les femmes et les enfants réfugiés sur le mont Sinjar.
Depuis le jardin de la Maison-Blanche, Barack Obama a réaffirmé qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle guerre américaine en Irak. Pour preuve, il a salué le soutien des Européens à cette intervention.
Ce matin, j'ai parlé à la fois avec David Cameron, le Premier ministre britannique, et François Hollande, le président français. Je suis ravi que ces deux leaders aient exprimé leur fort soutien pour agir et nous avons apporté leur assistance pour l'aide humanitaire aux civils irakiens qui ont tant souffert.
Le président américain a insisté, cette crise irakienne ne sera réglée que par les Irakiens. Sunnites et chiites doivent s'allier pour combattre les terroristes. Barack Obama, lui, s'envolera tout à l'heure en vacances sur l'île huppée de Martha's Vineyard. Le président suivra l'évolution du dossier irakien depuis son lieu de villégiature.
Nicolas Tarka, l'un des correspondants de RTL aux États-Unis. En France, le président François Hollande réaffirme ce soir que notre pays prendra toute sa place dans un dispositif autour des États-Unis, mais dans le cadre d'une action du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour bien comprendre ce qui se joue en ce moment dans le pays, écoutez Elie Chiacco. Il est secrétaire général de l'Association d'entraide aux minorités d'Orient et est en contact régulier, quasi quotidien, avec les populations sur place. Il décrit leur calvaire au micro de Morgane Solignac.
Ils dorment dans les parcs publics, dans les églises, dans les écoles. Et parmi eux, il y a des enfants, des personnes âgées, des malades. Et la situation se dégrade sanitaire jour après jour là-bas. J'ai des mails de là-bas qui me disent « Ma femme, elle est enceinte. Mon père, il est cardiaque. On n'a plus de médicaments. » Voilà.
Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes?
Je dis « Patientez ».
De la patience, estiment les personnes sur place et ces réfugiés qui affluent du coup dans les pays limitrophes de l'Irak. Bonsoir Joseph Alichoran.
Bonsoir.
Merci d'être en direct ce soir sur RTL. Vous êtes chercheur en histoire et spécialiste de cette zone en Irak. On vient d'entendre les conditions extrêmement difficiles des populations sur place. D'abord, peut-être une réaction aux propos du président américain Barack Obama. Il reconnaît qu'il est impossible de résoudre le problème en Irak en quelques semaines. C'est un aveu d'impuissance pour vous ?
Bah écoutez, c'est oui, bien sûr, c'est un aveu d'impuissance, mais malheureusement, c'est la réalité. Aujourd'hui, j'ai écouté Barack Obama. À vrai dire, j'ai rien entendu de nouveau. Les frappes aériennes, il dit qu'elles vont se poursuivre. On a l'impression qu'on hésite un peu. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que les frappes aériennes doivent s'intensifier parce qu'il faut mettre vraiment l'État islamique en Irak hors d'état de nuire à toutes ces populations civiles qu'il poursuit. On a quand même 300 000 personnes déplacées dans des conditions épouvantables. Donc, dire voilà, on ne sait pas, on tergiverse, on voit si on intervient, on fait autre chose. Non, il est temps. D'un côté, c'est vrai que les frappes aériennes doivent s'intensifier sur les djihadistes de l'État islamique en Irak. Et d'autre part, l'aide humanitaire, elle doit aussi continuer à arriver parce que pour l'instant, elle n'arrive pas suffisamment. Et notamment dans la région kurde où se sont réfugiés les 100 000 chrétiens de la plaine de Ninive, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'aide humanitaire arrivée. Il arrive quelques éléments d'aide humanitaire au niveau du Sinjar pour les communautés yézidis, mais ça reste totalement insuffisant.
Dans une région de plus extrêmement aride, hein, des températures extrêmes.
Alors évidemment, dans les conditions que l'on connaît, je vous assure, c'est une situation épouvantable. Et là, on va commencer à voir les premiers morts parce que personne ne sera venu à temps pour les aider. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix, vraiment un drame humanitaire sans précédent.
Monsieur
et là,
Richaud,
il faut que la communauté internationale agisse et très vite.
Vous dites que ces frappes américaines aériennes sont insuffisantes aujourd'hui. Est-ce qu'elles arrivent de toute façon trop tard ou est-ce qu'on peut encore faire quelque chose?
Non, je ne pense pas qu'elles arrivent trop tard. Heureusement qu'elles sont venues. Elles sont venues depuis hier. Mais il faut qu'elles continuent. Et surtout, il faut vraiment, comme je viens de le dire à l'instant, il faut mettre hors d'état de nuire cet État islamique en Irak. Parce qu'il est la cause de tous ces malheurs, de tous ces drames, là, depuis quelques jours. Et là, aujourd'hui, on a quand même, n'oublions pas, plus de 300 000 personnes sur les routes, mais vraiment dans des conditions épouvantables.
Dans cette crise, pardonnez-moi, le rôle de la France est-il à la hauteur des ambitions affichées? Est-ce que vous en attendez plus également de la part du président français François Hollande?
Alors écoutez, moi j'attends une chose. Barack Obama a dit et redit qu'il n'interviendrait pas au sol. Il n'y aura pas de troupes américaines au sol en Irak. Très bien. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut, dans tous les cas, une intervention militaire terrestre. Il faudra que ça soit sous le patronage des Nations Unies. Très bien, s'il y a une résolution, il faut qu'elle soit adoptée rapidement. Et il faut à tout prix des contingents au sol pour soutenir et d'un côté l'armée irakienne et d'autre part les Peshmerga kurdes qui sont pour l'instant en première ligne et qui les frappes aériennes seules ne suffiront pas.
Merci beaucoup Joseph Alicheran d'avoir été notre invité ce soir en direct. Je rappelle que vous êtes chercheur des questions relatives, spécialiste des questions relatives à l'Irak. Merci beaucoup monsieur, bonne soirée. On marque une pause et dans un instant nous irons à Gaza qui tente de se reconstruire malgré les bombardements.
RTL Soir,
Christophe Ponzo.
La mobilisation de soutien aux habitants de la bande de Gaza se poursuit. Des manifestations ont réuni plusieurs milliers de personnes cet après-midi un peu partout en France, comme à Marseille, Strasbourg, Lyon, Dijon ou encore Lille. À Paris, comme samedi dernier, le cortège a défilé de la place d'Enfer Rochereau aux Invalides, avec toutefois des rangs un peu plus clairsemés que la semaine passée. Pas de débordement à signaler à l'heure où l'on parle. Yael est franco-israélienne et participait à la manifestation pour la paix.
Nous sommes ici pour soutenir l'avenir des deux peuples en Israël et en Palestine. Si on est là contre les massacres, contre l'occupation, pour l'humanité, nous sommes pour toutes les citoyennes, israéliens et palestiniens ensemble. Et ça, c'est pas possible avec l'occupation. Et ça, c'est la tristesse de cette situation. Parce qu'on avait la même guerre à 2006, à 2008, à 2012. Et à chaque fois, on revient. Parce que l'occupation, il reste là, parce que la communauté internationale a complètement oublié son rôle. Moi, j'ai beaucoup d'amis à Gaza. J'ai visité Gaza beaucoup de fois dans ma vie. Et c'est vraiment ridicule de parler des souffrances des Israéliens quand on compare avec Gaza.
Il y a elle au micro RTL d'Éric Cuoche à Paris. Sur le terrain à Gaza, les frappes israéliennes se sont poursuivies. Aujourd'hui, le Hamas a prévenu qu'il ne ferait aucune concession à l'État hébreu. Pendant ce temps-là, les Nations Unies appellent à la fin du blocus israélien pour permettre la reconstruction dans l'enclave palestinienne. Une reconstruction que tentent déjà, sous les bombardements, les Gazaouis, comme a pu le constater notre envoyé spécial, Émilie Bojard.
Abdallah a installé un réchaud et des canapés dans son jardin au pied des décombres. C'est désormais là qu'il vit avec une partie de sa famille, abrité par une grande bâche.
Pour l'eau, on a trouvé des citernes, mais elles étaient trouées. Alors on les a réparées et un voisin nous a aidés à les remplir. Et pour les toilettes, on a juste creusé un trou dans le sol.
Sa maison de 5 étages où vivaient 9 familles a été pulvérisée par une frappe israélienne il y a 10 jours. La famille n'a eu que 2 minutes pour évacuer.
Regardez, il reste juste un cratère de 10 mètres de profondeur sur 15 mètres de large.
Abdallah tente d'entrer dans les décombres. La partie de l'édifice qui tient encore debout menace de s'effondrer à tout instant. Pourtant, Abdallah y est entré plusieurs fois pour récupérer les rares objets encore en état.
Oui, c'est dangereux. Chaque fois qu'il y a un bombardement dans le quartier, on sent la maison s'enfoncer, bouger. Ne vous inquiétez pas, c'est loin.
Malgré le danger, Abdallah va rester ici avec sa famille, en tout cas jusqu'à cet hiver.
Les écoles sont bondées et il n'y a plus d'appartements libres à louer. Alors on reste là, mais on garde espoir. On a déjà construit cette maison une fois, on peut bien la reconstruire.
En haut des décombres, Abdallah a installé une tente. Avec le sourire, il explique que c'est l'endroit le plus frais de son habitation de fortune.
Le reportage de notre envoyé spécial à Gaza, Émilie Bojard, pour RTL. En Turquie, le Premier ministre Erdogan a terminé sa campagne présidentielle à la veille du scrutin. Demain, il a répété sa promesse de bâtir une nouvelle Turquie. Il règne sur le pays depuis 11 ans maintenant. À Dolomieu, en Isère, c'est avec détachement que les habitants ont accueilli aujourd'hui le suicide d'un des braqueurs présumés du bureau de tabac. Le jeune de 22 ans a été retrouvé pendu dans sa cellule hier soir. Il était suspecté d'être complice du tireur qui a tué un client du commerce, c'était le 29 juillet dernier, et il risquait la réclusion criminelle à perpétuité. Les villageois voient en son geste un aveu clair de culpabilité. Bonsoir Arnaud Grange.
Bonsoir.
Alors plusieurs questions ce soir sur la surveillance de ce détenu connu des services de police. Faisait-il l'objet de mesures particulières ?
Absolument pas. C'était un dispositif classique prévu pour les détenus a priori banal, d'autant que ça n'était pas son premier séjour en détention. Depuis lundi, il était placé dans le quartier des nouveaux arrivants. C'est un bâtiment où il y a une dizaine de cellules et des rondes de surveillance fréquentes, environ toutes les deux heures. C'est un passage obligé, une phase d'observation avant d'intégrer le centre de détention. Par ailleurs, ce jeune homme partageait sa cellule avec un co-détenu, mais qui vendredi a quitté ce quartier de la prison. C'était donc sa première nuit seule. Aucune surveillance particulière n'avait été décidée car il n'a jamais eu de comportement troublant. Pour Alain Chevalier du syndicat UFAPUNSA, il est très difficile de prévenir les suicides.
On ne peut pas mettre un fonctionnaire à côté de chaque détenu 24 heures sur 24. La personne qui est déterminée à se suicider, elle y arrivera de toute manière. Il y a toujours du temps libre en cellule.
En revanche, il est fort probable que le tireur présumé, qui a déjà à plusieurs reprises exprimé des remords au point d'écrire une lettre à la mère de la victime, soit lui placé sous haute surveillance après le suicide de son complice présumé.
Les précisions d'Arnaud Grange, correspondant de RTL dans la région Rhône-Alpes. Une fillette de 18 mois a été grièvement brûlée ce matin dans une maison de l'Aude à Soule, près de Castelnaudary. L'habitation a pris feu, le bébé était avec sa maman et un autre enfant au moment du sinistre. Il est hospitalisé en ce moment à Toulouse. L'origine de l'incident serait due à un problème d'alimentation électrique. Dans l'Hérault, près de Montpellier, vive émotion encore ce soir après la mort des deux jeunes filles de 17 et 19 ans. Elles avaient été grièvement blessées hier à Latte alors qu'elles étaient à scooter sur la route de Palavas-les-Flots. Elles ont été fauchées par un chauffard et traînées sur plusieurs centaines de mètres. Un suspect est toujours en garde à vue. Rassurez-vous, Alain Delon va bien. C'est ce qu'indique aujourd'hui sa fille Anouchka. Après l'hospitalisation de son père, RTL vous l'avait révélé cette semaine, l'acteur a subi une intervention chirurgicale pour un problème de nerf du visage. C'était mercredi. Sa fille adresse un immense merci pour les ondes positives et les messages de soutien. Ils sont 7000 bénévoles sur les plages de vos vacances en ce moment à vous surveiller avec leurs jumelles ou à bord de leur bateau 7 jours sur 7. Mais cette année, ce sont eux qui lancent un appel à l'aide. Bonsoir Xavier Delagorce.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le président de la Société Nationale de Sauvetage en Mer, la SNSM. Et en plein cœur de l'été, vous craignez pour votre budget. Il pourrait être rogné de moitié à cause de la réforme territoriale. Qu'est-ce qui se passe Xavier Delagorce? Qu'est-ce qui vous met en danger ainsi?
Ce qui nous met en danger, c'est qu'aujourd'hui, les régions et les départements assurent la moitié du budget d'investissement de la SNSM, c'est-à-dire entre 3 et 4 millions par an, sur une base purement volontaire. Donc la réforme territoriale qui est en cours et qui va être discutée devant le Parlement à l'automne risque d'ébranler ces possibilités de financement dans la mesure où le secours en mer, c'est d'abord une compétence d'État. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon une compétence régalienne. Mmh. Et les collectivités seraient tout à fait fondées à dire bah, « Écoutez, on fait un nettoyage des compétences, puisque c'est ça l'objectif, et bien que l'État reprenne en charge le financement de la SNSM. »
Il faut faire des économies, on ferme le robinet, voilà.
On ferme le robinet des collectivités, mais ça suppose que l'État ouvre le sien. Or, l'État est dans la situation que chacun connaît.
Et la Société nationale de sauvetage en mer que vous dirigez dépend aujourd'hui aux trois quarts des donateurs, 72 000 en tout, dont de grandes entreprises hein, comme Total, Airbus Hélicoptère. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter ?
Ah ben, il y a de quoi être inquiet, non pas par rapport à ces 75% qui viennent du privé, mais par rapport à la partie publique et notamment la partie investissement, 50% de l'investissement. Ça veut dire très concrètement que l'année prochaine, moi je dois normalement acheter 12 ou 15 bateaux. Si j'ai pas les financements, je commande pas. Et si je commande pas, ça veut dire qu'on va devoir faire durer le bateau actuel. Et ça a des limites parce que je ne peux pas mettre, vous comprenez bien, en difficulté, la sécurité des sauveteurs, pas plus que les gens qu'on va sauver. Mmh. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des trous d'air, si j'ose dire, dans le financement des investissements de l'association.
Donc on verra tout ça à l'automne. Xavier de Lagorce, on est le 9 août aujourd'hui. Est-ce qu'on peut déjà faire un premier bilan de cet été du nombre d'interventions d'abord ? Plus d'interventions, moins d'interventions, est-ce que c'est stable ?
Écoutez, globalement c'est stable, avec une petite diminution de nombre d'interventions sur la côte atlantique. Alors il est difficile au jour où on parle de connaître les causes. Les causes, ça peut être le temps,
oui.
Ça peut être la fréquentation, le niveau de fréquentation du littoral, ça peut être l'efficacité de la prévention. Et je souhaite qu'il y ait en tout cas une part significative de ces résultats qui résultent d'actions de prévention, qui sont tout à fait essentielles. Mais des interventions, il y en a tous les jours actuellement. Donc c'est la saison bat son plein.
Et alors justement, vous qui êtes le patron des sauveteurs en mer, à tous nos auditeurs qui sont en ce moment sur le littoral en vacances, quels sont les dangers absolument à éviter ?
Ben, les précautions à prendre, si vous allez en mer, c'est d'abord de regarder la météo. C'est très basique, les conseils, mais malheureusement, ils sont pas toujours respectés. C'est d'avoir suffisamment d'essence dans son réservoir ou en réserve à côté de son réservoir. C'est d'avoir un moyen de transmission, une VHF, un portable. C'est de savoir que utiliser des feux de détresse. Et puis, c'est surtout porter son gilet. Le gilet, c'est au bateau ce que la ceinture de sécurité est à la voiture. Si on veut que la mer reste un plaisir et un loisir, il faut prendre des précautions. Sinon, ça tourne au drame.
Et sur la plage, alors, qu'est-ce qu'il faut éviter ?
Sur la plage, souvenez-vous, c'était l'année dernière, je crois, il y avait eu, dans un département du sud de la France, 8 ou 10 morts en quelques jours. Bon, c'est inadmissible. Et je me souviens encore avoir vu à la télévision quelqu'un qui disait, mais moi, j'ai pas envie sur les plages surveillées parce que c'est ma liberté. Oui, sans doute. Bon, on va se baigner où on veut, mais je pense que lorsqu'on a des jeunes enfants, lorsqu'il y a des personnes fragiles, lorsqu'on est en famille, il est plus prudent d'être sur des plages surveillées, donc faut faire attention. Et puis, quand on s'éloigne en mer, il faut toujours prévenir, on dit toujours, prévenez quelqu'un de la famille, hein, dites où vous allez. Parce qu'après ça, on panique, et c'est un grand désordre. Et on perd beaucoup de temps dans les secours, notamment en mer, si on n'arrive pas à savoir où sont les gens. Il y a des précautions, la mer c'est un univers de plaisir et de loisir, je le redis, mais ça peut être un univers imprévisible et dangereux.
Donc avoir les bons réflexes au bon moment et rester
exactement
toujours évidemment prudent pour
exactement
éviter tous ces drames. Merci beaucoup Xavier de Lagorce, président de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Merci d'avoir été notre invité dans RTL Soir. Bonne soirée à vous.
Je vous en prie, au revoir.
Moins de 10 000 foyers sont encore privés d'électricité ce soir dans le sud-ouest après le passage des violents orages d'hier soir, notamment en Aquitaine et dans la région Midi-Pyrénées. Courage à vous si vous n'avez pas d'électricité. On marque une nouvelle pause et la suite de la première journée de Ligue 1 de football, c'est dans un instant avec Eric Silvestro qui nous donnera l'eau à la bouche. À tout de suite.
RTL Soir,
Christophe Ponzo.
Près d'un mois après la fin de la Coupe du Monde de football, le championnat de France de Ligue 1 est sur les rails. Ouverture hier soir avec le match nul du PSG à Reims, de partout. Et cette première journée continue. Bonsoir Eric Silvestro.
Bonsoir à tous.
C'est le grand retour du multiplex RTL L'Équipe pour 5 heures d'émission à vivre derrière le poste de radio.
Et oui, 19h minuit en compagnie bien sûr de Pascal Praud et de tous les correspondants de RTL. C'est la grande rentrée des classes. La cloche a sonné hier et pas de récréation ce soir. 7 matchs au programme à partir de 21h. Bastia-Marseille et les regards braqués sur le bord de la pelouse de Furiani avec les grands débuts sur le banc de Marcelo Bielsa côté olympien et de Claude Makélélé côté Corse. Lille-Metz, le troisième de la saison passée qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions face au promu Lorrain. Guingamp-Saint-Etienne, une semaine après le trophée des champions à Pékin, les Costa-Armoricains se mesurent au vert, très ambitieux cette année. Montpellier-Bordeaux à la Mosson est le premier match en Ligue 1 de Willy Sagnol à la tête de Bordeaux. Lens, toujours interdit de recrutement, se déplace à Nantes, plein de doutes. Enfin, Nice accueille Toulouse et Evian Thonon-Gaillard reçoit Caen de 19h à 20h. Grand débat sur les enjeux de la saison 2014-2015. À 20h, tour des stades complet avant les matchs et puis de 23h à minuit, Radio Vestiaire avec toutes les réactions en direct cette année encore. Priorité à l'interactivité avec les auditeurs sans oublier les traditionnels ralentis radio, les tops de notre partenaire L'Équipe et tous les résultats bien sûr de Ligue 1, Ligue 2 et National.
Voilà un joli programme. Merci Eric et rendez-vous donc dans maintenant une grosse demi-heure sur RTL. En Ligue 2, Valenciennes et Nîmes ont fait match nul de partout cet après-midi et puis en ce moment, Ajaccio reçoit Sochaux. Joe Wilfried Tsonga joue ce soir pour un ticket en finale du tournoi de tennis de Toronto au Canada. Le Français affronte à 21h le numéro 8 mondial, le Bulgare Grigor Dimitrov, après avoir éliminé Andy Murray et Novak Djokovic. Tsonga qui a déjà rencontré 3 fois ce joueur dans le passé et qui a gagné 3 fois. Et puis la Coupe du Monde dames de rugby, les Bleus se frottent à l'Australie ce soir en quart de finale. Les filles du 15 de France espèrent terminer première de leur poule. Match à 20h45 à Marcoussi dans l'Essonne. En Italie, c'est l'histoire incroyable d'un échange d'embryons qui tourne à la bataille judiciaire depuis le printemps dernier maintenant et qui vient de connaître d'ailleurs son épilogue. Dimanche dernier, une femme a accouché des jumeaux d'une autre après une fécondation in vitro. Elle estime être la mère des bébés et veut les garder, tout comme la mère biologique, Anne Lenier.
Parfois, il suffit d'une presque parfaite homonymie entre deux noms pour changer le destin de deux familles. C'est ce qu'il s'est produit pour deux couples qui se sont soumis à une fécondation in vitro dans un hôpital romain le 4 décembre 2013. 3 mois après, à la suite d'un examen génétique, Clara découvre qu'elle est enceinte de jumeaux, mais qui ne sont pas les siens. Il y a eu un échange d'embryons avec ceux de Maria, qui, elle, n'est pas enceinte. Le scandale éclate au grand jour. Clara veut porter à terme sa grossesse. Elle et son mari sont convaincus de leurs droits en vertu de la loi selon laquelle la femme qui accouche est la mère naturelle. Maria et son époux, eux, soutiennent que les enfants auront leurs gènes et sont donc les leurs. L'affaire déchirante vient de s'achever dans le soulagement pour les parents sans filiation biologique. Les jumeaux nés dans la plus grande discrétion le 3 août ont été enregistrés à l'état civil et le tribunal civil de Rome a rejeté hier soir le recours déposé par le couple biologique.
Anne Lenier, correspondante de RTL à Rome.
Monique Younes, les grandes expositions de l'été sur RTL.
Et pendant les vacances, il n'y a pas que la mer et la montagne qui peuvent vous séduire, il y a aussi les musées et proposent de nombreuses expositions pendant tout l'été. Monique Younes est là pour nous le rappeler. Direction ce soir le Centre Pompidou de Paris pour voir ou revoir les tableaux du Français Martial Raïs. Beaucoup de couleurs, Monique, chez cet artiste un tantinet insolent.
En 1960, les œuvres du jeune Martial Raïs, né en 1936 à Golfe-Juan, sont ultra colorées, la plupart inspirées des tableaux classiques ou des affiches publicitaires. Raïs s'amuse à détourner la grande odalisque d'Ingres, il lui peint le visage en vert, rehausse le turban multicolore de perles et de passementeries. Ses audaces n'ont vraiment rien à envier à celles d'Andy Warhol, dont il était d'ailleurs un des proches. Couleur écarlate, utilisation du néon et d'objets en plastique, Martial Raïs disait alors que les magasins prises uniques étaient les nouveaux musées d'art moderne et il utilisait les objets de cette modernité pour en faire des installations et des tableaux.
Au début des années 60, il n'y avait simplement que 2 ou 3 magasins qui étaient modernes comme ça. Vous voyez, jusqu'en 56, il y a eu des tickets d'alimentation, par exemple. Les gens ne savent pas ça. C'est aujourd'hui qu'on dit que c'était une société de consommation. Mais à l'époque, ce genre de magasins et les objets en plastique et les couleurs néon, tout ça, c'était simplement l'introduction du modernisme dans la vie quotidienne. Et ça, pour moi qui suis progressiste, c'était passionnant.
Le succès de Martial Raïs dans les années 60 est éclatant. Tableaux, sculptures, installations, il fait feu de tout bois et devient la grande star de l'art contemporain. Porté par la gloire, il s'installe aux États-Unis et quand il ne détourne pas les chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art dans des compositions acidulées avec néons et objets en plastique, il peint et met en scène des femmes plus belles les unes que les autres et pour cause.
L'image la femme, pour moi, est une image de l'espérance, de la beauté du monde. C'est comme les fleurs. J'ai eu la chance d'être toujours entouré de très jolies femmes. Très généreuses, parce qu'elles posent pour moi. De ma première épouse, il y avait des tableaux qui ont été faits au tout début. Et ensuite, à partir de son visage, j'ai dessiné un archétype de visage.
Au début des années 70, Martial Reiss tourne le dos à tout ce qui l'a rendu célèbre. Il se lance à contre-courant de tous dans la peinture figurative. Nature morte, portraits, scènes de genre réalisées dans la plus pure tradition. Les critiques et les collectionneurs sont déroutés, plus personne n'en veut, jusqu'à sa rencontre en 1986 avec l'homme d'affaires François Pinault.
Curieusement, les gens ne savent pas que M. Pinault a une bonne connaissance de la peinture. Et donc, il s'est intéressé à mon travail au travers de la peinture, un peu avant 90. J'étais complètement abandonné. À partir de 70, j'ai eu très peu d'expositions, très peu de collectionneurs. J'ai fait le contraire de ce que les gens espéraient que je continue à faire. C'est du commerce, ces affaires-là. Et puis, en plus, j'ai pris des positions en 68 qui m'avaient mis à dos une bonne partie de l'establishment pictural.
Collectionné par François Pinault, Martial Reiss redevient une star et du coup, Beaubourg lui déroule le tapis rouge. Cette rétrospective vous permettra de vous faire une idée de l'évolution étonnante d'un des rares artistes français reconnus sur le plan mondial. Et vous pourrez vous disputer avec vos amis pour savoir si c'était mieux avant ou si c'est encore mieux maintenant.
Effectivement, merci Monique Younes. 18h30 sur RTL, très belle soirée à vous. Avec tout de suite Bernard Glass pour On refait les courses, à demain.
Vous écoutez RTL.